Nous allons prendre ensemble nos Bibles. Et ce matin, Dieu a mis quelques pensées au-dedans de moi. Et nous allons voir à travers quelques références bibliques, 4 ou 5 références bibliques ce matin, ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut me dire. Amen.
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 La première référence, nous sommes dans Romains au chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 31. Romains au chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 31. Mais le verset qui nous concerne, il est un peu plus en bas. C'est le verset 37. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur. C'est ce que dit la Bible. Merci pour ton amen. Tu es plus que vainqueur, dit la Bible. Mais est-ce que tu l'es réellement? Alléluia. Vous savez, cette semaine, ceux qui ont regardé un peu la télé, on a vu beaucoup de reportages sur France 98. Lorsque l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Parce que la France, vainqueur une seule fois. Et celui qui est vainqueur une seule fois, il en fait toute une fête. Il y a quelques semaines, l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas de supporter de l'Olympique de Marseille, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est de l'Olympique de Marseille ici. En 93, l'Olympique de Marseille a gagné la Coupe d'Europe. Et ils ont encore fait une fête. Parce que ce sont des vainqueurs une seule fois. Je continue dans le thème du football, même si beaucoup ne s'intéressent pas au football. Ce n'est pas grave, ce n'est pas l'essentiel pour entrer dans le royaume. Un club dont je ne suis même pas supporter non plus, le Real de Madrid. Là, ils viennent de gagner la Champions League pour la 3e fois d'affilée. Ils rentrent dans la catégorie de plus que vainqueurs. Vous n'allez pas les voir fêter la Coupe d'Europe. Alléluia. Alors, est-ce que tu es vainqueur ou est-ce que tu es plus que vainqueur? Alléluia. Il y a certains, une petite victoire en 92. Il va attendre une deuxième victoire après combien des années? Non, plus que vainqueur, c'est pas ça. Plus que vainqueur, la Bible nous dit que Dieu a déjà donné son Fils pour que lorsque nous sommes dans le combat, que nous soyons déjà dans l'attitude de vainqueur. Alléluia. Mais nous, nous rentrons dans le combat dans une attitude défaitiste. Et quand on t'apporte un sujet, est-ce que ce n'est pas de mon niveau, j'appelle le pasteur, c'est du niveau du pasteur. Mais ce matin, j'aimerais prendre trois points avec vous. Ceux qui sont des grands lecteurs de la Bible vont en trouver d'autres. Mais moi, je veux juste nous ramener ces trois points que nous connaissons certainement. Que ces trois points te maintiennent dans l'attitude. Que ces trois points te maintiennent dans la dimension de plus que vainqueur. Que tu ne sois pas un vainqueur de façon périodique. Mais que tu sois comme la Bible le déclare. La Bible dit que tu es plus que vainqueur. Donc tu as des grandes victoires à gagner. Ne te réjouis pas des petites victoires. Alléluia. Tu as des grandes victoires à gagner. Quand je te parle des grandes victoires, je te parle des grandes victoires. De vaincre le monde. Je te parle pas de chasser les petits démons. Et nous avons nos petits démons sur qui nous mettons toute notre force. Et quand c'est les plus grands, on les laisse à côté. On ne touche pas à cela. Mais Dieu nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et trois attitudes ce matin, trois points que j'aimerais ensemble que nous puissions voir. Le premier point, je l'ai pris en trois verbes. Le premier verbe devait, normalement, il contient les deux autres verbes. C'est être, devenir et demeurer. Alléluia. Trois points, trois verbes, mais qui devaient en réalité se retrouver dans le premier verbe. Le premier verbe que j'utilise, c'est être. Le deuxième verbe, c'est devenir. Le troisième verbe, c'est demeurer. La Bible dit, nous prenons la référence suivante que nous connaissons tous, Jean au chapitre 1er, le verset 12. Celui qui connaît la référence en tête. Nous prenons Jean au chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. À ceux qui ont cru, la Bible ne dit pas qu'ils sont automatiquement enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit Dieu donne. Dieu ne te donne pas l'identité céleste. Dieu te donne le pouvoir d'acquérir l'identité céleste. Alléluia. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit qu'il devient enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as cru que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne la capacité, Dieu te donne le nécessaire pour que tu fasses la marche avec lui et que tu deviennes. Le verbe devenir, c'est le même verbe que Dieu va utiliser en parlant du mariage, que la Bible va utiliser, que les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Ceux qui sont dans le mariage peuvent me témoigner que beaucoup ne sont pas encore une seule chair. Alléluia. Parfois, on est à côté, tout près, et la seconde d'après, on n'est plus une seule chair. Alléluia. Parfois, on est tellement complices qu'en se regardant, on se transmet tout le message. Mais la minute d'après, alléluia. Devenir une seule chair. Bien-aimé, que c'est compliqué, que c'est difficile. C'est le même verbe que Dieu va utiliser. Il y a une image, une vidéo qui circule sur Facebook. On a mis un monsieur et une dizaine ou une vingtaine de femmes, jeunes filles et femmes. On l'a bandé les yeux. Et il devait passer, retrouver la main de sa femme, les yeux bandés. Alléluia. Depuis ce jour-là, je commence à regarder, moi, les mains de ma femme. Parce que cet exercice-là, et le monsieur a réussi. Je ne sais pas s'il y avait un trucage. Mais je ne pense pas. L'idée de la chose, ce n'est pas qu'il y ait trucage. Et si on nous a balancé ça sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il a réussi. S'il n'avait pas réussi, on ne devait pas voir. Mais combien d'entre nous ne vont pas réussir? Je ne sais pas, frère Kevin. Si on met 15 mamans de l'église, là, et on dit, le frère JB, viens retrouver les mains de la sœur Edwige, on te bande les yeux. Ah ben, que c'est difficile. Que c'est difficile. Heureusement qu'on demande aux frères. Si on demandait aux sœurs, on ne sait pas. On peut parler que des frères, non. Mais que c'est difficile de retrouver, au milieu de beaucoup de mains, la main de ta femme, les yeux bandés. C'est ça, devenir une seule chair. Et Dieu l'utilise ce verbe, la Bible utilise ce verbe parce que c'est un processus. Celui qui te dit le soir du mariage, on est devenu une seule chair, c'est un menteur. C'est un long processus. Et devenir enfant de Dieu, c'est aussi un processus. Ça commence par croire. Dieu te donne le pouvoir. Dieu te dit, maintenant tu peux devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux vraiment devenir enfant de Dieu? Parce qu'il ne te force rien. Il dit, je me tiens, je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre, j'entre. Si tu entends, tu ne veux pas ouvrir, il ne va pas rentrer. Il te dit, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, c'est tout un pouvoir que Dieu te donne. Pour que tu deviennes enfant de Dieu. Si ça n'avait pas d'importance, si ça n'avait pas pour Dieu, ce n'était pas important. Il ne devait pas te donner tout un pouvoir. Mais lorsque tu crois, lorsque tu confesses, Dieu te donne le pouvoir. Dieu t'équipe de beaucoup de choses pour que tu fasses le processus et que tu devienne enfant de Dieu. Et une fois que tu es devenu enfant de Dieu, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tu commences à marcher comme un enfant de Dieu devrait marcher. Ce n'est pas fini. Alléluia. Ce n'est pas fini. Rien n'est acquis. Ce n'est pas fini. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alléluia. C'est pourquoi je parle du troisième verbe, demeurer. Nous devons demeurer. Nous devons avoir, je ne sais pas comment vous expliquer demeurer. Qui peut mieux expliquer demeurer que moi? Le frère dit une attitude de fidélité. J'aimerais ajouter une adresse, une référence. C'est ma demeure. Et quand on va déposer quelqu'un au cimetière, on dit que c'est sa dernière demeure. Parce qu'on est sûr qu'il ne va plus changer. Alléluia. On est sûr qu'il ne va plus changer de demeure. Il va demeurer là. Si on va, je ne sais pas, on t'affecte, tu es allé au sud de la France. Et que le jour où tu veux venir fleurir la tombe de ton proche parent, tu sais où trouver la tombe. Tu sais où trouver la demeure, parce qu'il demeure, il ne bouge plus. Alléluia. Combien sont des chrétiens parmi nous ce matin qui demeurent? Alléluia. Combien qui demeurent? Beaucoup d'entre nous, nous ne demeurons pas. Beaucoup d'entre nous, nous sommes assis. Et celui qui est assis est susceptible de se lever. Et celui qui se lève est susceptible de marcher, de changer d'endroit. Beaucoup de chrétiens que nous sommes dans cette attitude-là. Nous sommes ici à l'église, nous sommes assis. on va se lever, on va se déplacer. Nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes assis, nous allons nous lever, nous allons nous déplacer. Mais Dieu ne cherche pas des enfants qui sont assis. Dieu cherche des hommes, des femmes, des enfants qui demeurent. Il sait qu'il peut te trouver là. Je vous parle pas de l'assemblée, mais il sait qu'il peut te trouver fidèle. Combien des enfants de Dieu sommes-nous fidèles? Il y a un pasteur qui disait, beaucoup d'enfants de Dieu, nous jouons au yo-yo. Il avait pris un exemple, vous savez, dans certains pays du tiers-monde, quand on rentre dans le train, les portes ne sont pas fermées. Les trains ont tellement beaucoup de monde qu'il y a certains qui sont juste sur les petites marches et ils tiennent, je ne sais pas comment appeler ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu ces trains-là ne peuvent pas comprendre. Il y a comme une manche. Et les gens se tiennent à cette manche. Et actuellement, on voit aussi sur les réseaux sociaux les jeunes qui montent sur les toits des trains et qui font, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils ont un terme qu'ils appellent, ils ont donné un terme à ce jeu, éviter les ponts. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette attitude. Donc nous nous levons, dès le danger est passé, nous nous levons et nous attendons le prochain danger. Mais le moindre moment d'inattention, tu vas croiser le pont. Et beaucoup sont décédés. Et nous jouons au yo-yo. Nous ne demeurons pas fidèles à Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu demeures fidèle? Ne lui donne pas la réponse. Il sera scandalisé. Ne lui donne pas la réponse. Il sera scandalisé. Parce que quand il te voit, il dit, voici un vrai chrétien, un véritable. Mais est-ce que tu demeures? Est-ce que aujourd'hui tu es avec Dieu, demain tu n'es pas avec Dieu? Est-ce que aujourd'hui tu es humble, demain tu n'es pas humble? La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. On te reconnaîtra par les fruits que tu portes. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas ça. Le diable aussi sait imiter. Ce n'est pas à ça qu'on va te reconnaître. La Bible dit à Antioche, c'est quand on a vu au-dedans d'eux la façon dont ils vivaient, la façon dont ils marchaient, comment ils étaient dans la communion fraternelle. Ils ont dit certainement que ce sont des chrétiens. Quand on te voit, on dit certainement, c'est un, trois points de suspension. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu es réellement chrétien? Pour demeurer plus que vainqueur, tu dois rester dans cette attitude de demeurer. Demeurer fidèle à Dieu. Et pour demeurer fidèle à Dieu, nous prenons la référence suivante. Je ne trouve pas d'autre mot pour vous le dire, sinon que s'éloigner du péché. 1 Pierre. Au chapitre 5. Comment la parole de Dieu définit celui qui demeure? 1 Pierre, le chapitre 5. Est-ce que je me suis trompé de verset? Le verset 6? La Bible dit, non, la Bible ne parle pas d'humilité. La Bible dit que tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu ne pêchent plus. Qui a la référence? Je me suis trompé de référence certainement. Bon exercice. Quelqu'un a-t-il la référence? Ceux qui ont les téléphones ouverts, allez sur Google. Comme disait Gohou, allez sur Goulou Goulou. Mais dans tous les cas, le verset dit que tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu ne pêchent plus. Voilà la définition que la Bible donne d'un enfant de Dieu, de celui qui demeure. Tu as trouvé? C'est 1 Jean combien? La fin c'est quoi? 18? Ah, c'est 1 Jean, moi j'étais dans 1 Pierre. Pourtant j'ai bien écrit 1 Jean et je suis allé chercher dans 1 Pierre. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ce verset? Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble, à haute voix? 1, 2, 3. Alléluia. Alors, ne viens pas nous dire que le malin, c'est le malin qui a fait que je pêche. Alléluia. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Tu veux savoir si tu es né de Dieu? Regarde juste ta vie et compare au verset. Est-ce que tu pêches? Est-ce que tu ne pêches point? Alléluia. La réponse te dit dans quel camp tu te trouves. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Je vois les gens soupirer. Alléluia. Nous nous parlons tous. Hein. Je ne veux pas vous dire que vous êtes là et moi je suis là. Non, nous sommes tous ensemble. C'est pourquoi je suis venu là. Comme ça, qu'on se sente tous ensemble. Et lorsqu'on lit le verset, tous nous sommes concernés. Amen. Il n'y a pas de super-héros chrétiens. Ça n'existe que dans les films de Marvel. Amen. Amen. Voilà la définition que la Bible donne de celui qui est né de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu. Il ne pêche point. Et il se garde lui-même. Alléluia. Et il se garde lui-même. C'est-à-dire, si ça ne dépend que de lui, il ne va pas pécher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouh. Si ça ne dépend que de toi, né de Dieu, tu ne pécheras point. Mais nous savons que l'environnement dans lequel nous nous trouvons nous entraîne vers le péché. Mais si ça ne dépend que de celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. La Bible dit là où sera ton trésor, là où sera ton cœur, là où sera ton trésor, ou c'est le contraire. Là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Tu aimes tellement ton identité d'enfant de Dieu que tu te gardes toi-même. Que si ça ne dépend que de toi, tu ne vas plus pécher. Lorsque tu es dans l'assemblée de ceux qui se sont réunis pour parler de l'autre, puisque tu ne veux plus pécher, tu prétextes quelque chose. Au revoir, bien-aimé. Si ça ne dépend que de toi, tu arrives dans le supermarché, ça te brûle. Il faut autrefois, tu étais celui qui prenait. Là, il semblerait on parlait de la dette coloniale. Tu rentrais dans le train sans payer. Mais à cause du fait que tu te gardes toi-même, tu refuses cela. Même si ça fait mal à ton porte-monnaie. Tu te gardes toi-même. Si ça ne dépend que de toi. Et je sais aussi qu'il y a des péchés involontaires. Tu ne voulais pas pécher, mais tu pèches quand même. Amen. Parfois avec les enfants, tu es tellement en colère que tu oublies que tu étais en colère, tu es allé t'endormir. Mais si ça ne dépend que de toi, que quelqu'un le dise ce matin au-dedans de lui, que si ça ne dépend que de moi, je prends la résolution de ne pas pécher. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Parce que si tu es dans le péché, tu n'es plus enfant de Dieu et tu ne peux pas être plus que vainqueur. Troisième point sur lequel nous allons terminer, être conscient de ton identité spirituelle. Alléluia. Si vous demandez à beaucoup ici, qui es-tu? Comme dit notre pasteur Jacques, nous sommes une église, nous sommes une assemblée de beaucoup qui viennent de différentes églises. Parce qu'ils ont changé de ville, parce que dans l'église où ils étaient avant, il y a eu des situations, ne voulant pas s'éloigner du Seigneur, nous nous sommes retrouvés ici, parce que nous avons changé de pays, parce que je me sens bien au milieu de la communauté. Il y a beaucoup d'églises au milieu de nous, beaucoup d'identités. Je n'aimerais pas dire ça, parce que nous n'avons qu'une seule identité. Mais lorsque nous demandons, chacun de nous va se définir par rapport à l'église d'où il venait. Et c'est pourquoi on entend même ici, au milieu de nous, là où nous étions, ce n'était pas comme ça. De là où je viens, ce n'était pas comme ça. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises, de la Bible, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu a utilisé l'assemblée dans laquelle tu étais. Gloire à Dieu. Il a utilisé cette assemblée pour que tu naisses, pour que tu grandisses. Et Dieu t'envoie ici parce que tu as une mission. Parce que tu as quelque chose à apporter à quelqu'un au milieu de nous. Amen. Ne te définis pas comme de ton assemblée. Ne prends pas l'identité par rapport à un courant. D'aucuns disent que nous sommes des... je suis catholique. Tu dois changer d'identité. Il faut être clair avec ton identité spirituelle. Moi, je n'ai pas de problème quand je vais dans une quelconque assemblée. Parce que je connais mon identité. Et dans une assemblée que tu vas, il y a des pratiques qui vont te plaire. Il y a des pratiques qui ne vont pas te plaire. Mais que ce soit des pratiques bibliques qui vont faire que tu adoptes une assemblée ou que tu n'adoptes pas une assemblée. Dans la première église où nous étions avant qu'on ne soit ici, un jour, le pasteur nous a prêché quelles sont les raisons bibliques pour que tu restes dans une église. Les gens ont dit donc, le pasteur veut nous chasser d'ici. Non, parce que nous étions dans un pays où beaucoup venaient en transit et que beaucoup partaient aussi. Et il fallait définir les points que tu dois trouver dans une église et ce qui peut faire que tu quittes une église. Amen. Ce n'est pas l'objet de notre pensée ce matin. Mais je voulais vous dire que tu dois être conscient de ton identité spirituelle. Tu es enfant de Dieu, né par la volonté de Dieu, qui ne pèche plus. Alléluia. Et la Bible dit, nous prenons la référence suivante, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. » Alléluia. Je vais retrouver la référence, la deuxième, comme ça nous allons aller vite, alors que Clément est en train de projeter la première référence. 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? La Bible dit, ne savez-vous pas? Est-ce que tu le sais? Que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et la dernière référence, c'est Éphésiens au chapitre 2, verset 22. Je prends à partir du verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Si tu es bien coordonné, tu dois être un temple saint. Alléluia. Un temple saint qui glorifie le Seigneur. Le verset 22 nous dit, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen. Une habitation de Dieu en esprit. La demeure de Dieu en esprit. Alors si Dieu demeure en toi tel que le définit la Bible. Si tu es enfant de Dieu, tu es dans le être, dans le devenir et dans le demeure. Que tu éloignes le péché de ta vie et que tu demeures avec Dieu, que Dieu fasse de toi sa demeure. Tu es dans les bonnes conditions pour être plus que vainqueur. Amen. Tu es dans les bonnes dispositions pour être plus que vainqueur. Autrement, tu vas avoir que des petites victoires. Tu ne connaîtras pas les grandes victoires. Amen. Je nous invite à la prière. Nous voulons encore prier pour toi ce matin. Si il fut un moment où tu étais enfant de Dieu, mais qu'aujourd'hui, cette identité n'est plus claire dans ta vie, nous voulons juste prier pour toi encore. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long. Si cette identité est claire dans ta vie. Mais le péché vient changer cette identité. Nous voulons aussi prier pour toi. Si tu ne demeures pas, tu as des difficultés à demeurer fidèle. Nous voulons prier pour toi ce matin. Nous fermons nos yeux. Et si tu es dans ce cas, juste que tu lèves ta main de là où tu te trouves. Nous voulons prier. Amen. Éternel notre Dieu, nous venons ce matin parce que notre désir est de vivre ta parole dans son entièreté. Ta Bible dit que par-dessus toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais Seigneur, dans nos vies, nous ne vivons pas cela. Nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons avoir perdu notre identité. Nous reconnaissons ne plus être clairs avec notre identité. Nous ne savons plus qui nous sommes. Tellement que le péché vient, Seigneur de gloire, dans notre vie. Tellement que le péché nous environne et que nous tombons si facilement. Alors que, Seigneur, tu nous as dit que nous devons nous garder nous-mêmes. Nous reconnaissons, Seigneur de gloire, que nous nous sommes éloignés de toi. Nous reconnaissons que nous ne sommes plus le temple du Saint-Esprit. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons attristé l'Esprit. Mais la Bible dit, si ton peuple, sur qui ton nom est invoqué, s'humilie, prie, délaisse ses péchés du haut des cieux, Seigneur. tu guériras le pays. Oh, nous sommes tout un pays, Seigneur de gloire. Et nous te prions afin que tu viennes et que tu nous guérisses. Nous voulons que tu viennes afin que, Seigneur de gloire, tu étendes ta main et que tu nous sépares de ce qui, éternel mon Dieu, ne faisait pas de nous des enfants de Dieu. Que tu éloignes le péché de nous et que tu nous donnes à nouveau les armes afin que nous puissions, éternel, tenir ferme et que rien ne puisse nous ébranler. Car nous sommes l'édifice que tu as bâti par le sang de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui avons levé nos mains, Seigneur de gloire, parce que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin, nous sommes comme une voiture éternelle qui n'a plus de démarreur. Nous avons besoin que tu nous pousses et que, éternel mon Dieu, le moteur prenne et que nous puissions à nouveau continuer le chemin. Oh Seigneur, souffle sur nous l'Esprit. Souffle sur nous ton esprit, afin que, éternel mon Dieu, nous puissions recommencer avec toi. Souffle ton esprit sur nos vies, Seigneur de gloire, afin que nous puissions avoir une demeure fixe, un rendez-vous fixe avec toi, là où tu viens, là où tu nous trouves, Seigneur de gloire. Souffle sur nos vies, afin que nous puissions avoir la force nécessaire de nous garder nous-mêmes. Souffle sur nos vies, afin que nous soyons plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés, toi qui nous as sauvés. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu soit loué.